Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 8 décembre, le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, semble remettre en question le fait que le gouvernement accepte l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir des demandeurs d'asile. Un haut responsable du Parti travailliste admet que son parti a laissé tomber ses partisans. Et puis en football, le Sydney FC est au top du classement de la A-League. En Australie, le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, semble remettre en question la perspective d'accepter l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir certains des demandeurs d'asile actuellement détenus sur l'île de Manus et à Nauru. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a obtenu l'abrogation des lois Medivac. Selon des rapports, le gouvernement avait conclu un accord avec la sénatrice indépendante Jackie Lambie pour obtenir son vote dans cette affaire. Et il y avait des spéculations qu'une partie de cet accord concernant l'offre de la Nouvelle-Zélande était de prendre quelques demandeurs d'asile. Peter Dutton a déclaré sur Sky News que la perspective que des passeurs essaient d'emmener des personnes par bateau en provenance de pays comme le Sri Lanka est toujours bien réelle.
The threat from Sri Lanka and elsewhere is still a very real one. So people smugglers are marketing New Zealand as a destination. We've got people who have gone from Nauru to the United States who are messaging back now saying don't come to the United States because the welfare system's not as good as you'll find in Australia and New Zealand. So we need to be realistic about the reality of those that are trying to take money from innocent men, women and children and put people onto boats now.
Les pompiers de la Nouvelle-Galles du Sud espèrent que les conditions vont se calmer aujourd'hui pour les aider à faire un travail critique contre les incendies avant que les températures ne remontent dans quelques jours. Le danger d'incendie sera aujourd'hui très élevé dans les Central Ranges, Northwestern New South Wales, New England, la Greater Hunter Region et les Northern Slopes. Des dizaines d'incendies continuent de brûler dans l'État, y compris l'incendie massif de Gospers Mountain, non loin de la périphérie nord-ouest de Sydney. Les pompiers espèrent faire effectuer des travaux de backburning et de confinement avant une journée très chaude prévue le 10 décembre. On écoute Shane Fitzsimmons, qui est le commissaire du New South Wales Rural Fire Service.
We've got seven areas in total fire ban again, including the Greater Sydney.
Nous décrétons l'interdiction totale de faire du feu dans sept zones. Parmi elles, les environs de Sydney et la vallée viticole de Hunter, à proximité de la frontière de l'État du Queensland, car nous comptons toujours environ 90 incendies et la moitié d'entre eux n'est toujours pas maîtrisée. 11 feux sont au niveau alerte élevé. La plupart se trouvent au nord de Sydney et se dirigent vers la région de la côte centrale. Nous avons un autre foyer au sud-ouest de Sydney cette fois et un autre encore qui est apparu la nuit dernière à Coffs Harbour au nord de la ville. Beaucoup de feux sont très intenses et il y a de fortes chances qu'ils gagnent encore en intensité car mardi prochain nous nous attendons à des températures plus élevées entre 30 et 40 degrés. Ce sera alors un nouveau défi pour ceux qui souhaitent voyager pendant les fêtes de fin d'année. Je leur recommande d'être vigilants. Plusieurs routes importantes sont déjà fermées à la circulation et d'autres le seront dans les semaines qui viennent. Le danger est réel et il faut savoir réagir rapidement si l'on est menacé par les flammes, même si on s'éloigne des zones concernées.
Voilà, Shane Fitzsimmons, le commissaire du New South Wales Rural Service sur Radio France Internationale. La députée du Parti travailliste fédéral, Tania Plibersek, admet que le parti a laissé tomber trop de ses partisans. Madame Plibersek prendra la parole ce dimanche lors d'une conférence du Labour à Sydney, à la suite dans le sillage de la défaite des élections fédérales du parti en mai de cette année. Dans son discours, elle va admettre que trop de politiciens et de responsables du Parti travailliste ne parviennent pas à répondre aux normes élevées attendues des personnes occupant de telles positions privilégiées. Une nouvelle enquête affirme que près des deux tiers des Australiens soutiennent un objectif national de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 ou même avant. L'Australian Institute a déclaré que son enquête auprès de 14 000 auprès de 1400 personnes avait révélé que plus de la moitié des électeurs de la coalition interrogés soutenaient un tel objectif malgré le refus de la coalition de s'engager dans une telle politique. Chaque État et territoire s'est engagé à atteindre un tel objectif. Une personne sur 10 seulement a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir d'objectif. Le ministre fédéral de l'énergie, Angus Taylor, participera à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Madrid cette semaine, la COP25. La célèbre chaîne australienne de hamburgers Grilled a été accusée de ne pas payer son personnel les salaires voulus. Certains employés de Grilled déclarent se sentir obligés de faire un stage d'accueil subventionné par le gouvernement pour décrocher un poste, ce qui ferait baisser le salaire net. La chaîne fait valoir qu'elle ne fait rien de mal à son personnel, mais simplement en train d'améliorer leurs compétences. Les îles Samoa ont levé un couvre-feu de 2 jours sur les résidents après que près de 90% des personnes éligibles ont été vaccinées contre la rougeole. Le couvre-feu a été imposé au milieu d'une épidémie qui a fait 65 morts ces dernières semaines. La campagne de vaccination obligatoire visait à vacciner 90% de la population. Le ministère de la Santé du Samoa affirme que 103 nouveaux cas de rougeole ont été signalés depuis le vendredi 6 décembre. Le porte-parole ministériel de Samoa contre la rougeole, Afama Sagarito Tupai, a déclaré qu'il était primordial de tirer des leçons de cette expérience.
We have to look at a review of all systems and I'll come up with the best way to do things from now on. There's got to be an initiative by every single individual to look after their own family welfare. Stop relying on government to do everything.
Le principal chef du parti d'opposition de l'Inde affirme que le pays est connu comme la capitale mondiale du viol. Dans le dernier d'une longue série de cas de viol très médiatisés dans le pays, une femme de 23 ans est décédée à l'hôpital de la capitale du pays, Delhi. La femme était sur le point de monter à bord d'un train pour assister à une audience du tribunal concernant son viol lorsqu'elle a été aspergée de kérosène et incendiée par ses violeurs présumés. Le chef du parti du Congrès, Rahul Gandhi, a critiqué le gouvernement pour n'avoir pas enquêté sur les incidents de violence contre les femmes.
India is known as the rape capital of the world. Foreign nations are asking the question why India is unable to look after its daughters and sisters.
On passe maintenant au reportage de Carole Dietrich sur place pour Radio France Internationale.
Son cœur n'aura finalement pas tenu le choc. La victime de viol incendiée sur le chemin du tribunal par un groupe d'hommes jeudi à Unnao en Uttar Pradesh est morte des suites d'un arrêt cardiaque dans la capitale indienne. Brûlée à 95%, la jeune femme de 23 ans avait été transportée jeudi dans un hôpital de New Delhi. Face à cette terrible nouvelle, beaucoup sont à court de mots, comme Shweta, une étudiante d'une vingtaine d'années venue participer à une performance contre les violences faites aux femmes à New Delhi.
Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, c'est la première nouvelle que j'ai entendue ce matin. Je me suis sentie paralysée, l'impuissance. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce sentiment. Que se passe-t-il à travers le monde, à travers le pays? N'a-t-on pas le pouvoir de limiter toute cette violence?
Parmi ces agresseurs, la jeune femme était parvenue à reconnaître les deux hommes qu'elle accusait de l'avoir violée en décembre 2018. L'un d'eux venait tout juste d'être libéré sous caution. Pourquoi la victime n'avait-elle pas été placée sous protection policière, se demande aujourd'hui une opinion publique révulsée. Une partie de la population semble même avoir soif de vengeance. Aussi, vendredi, dans le cadre d'une autre affaire, de nombreux Indiens ont applaudi la mort de 4 suspects de viol abattus par la police.
En France, les transports paralysés par les grèves, les gilets jaunes se sont réunis pour l'acte 56 de leur mouvement. Hier samedi, après la mobilisation jeudi contre la réforme des retraites, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté le calendrier des réformes à venir. Patricia Lecomte, RFI.
Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, et Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, recevront lundi 9 décembre l'ensemble des partenaires sociaux pour clore le cycle de négociations sociales ouvert sur le sujet. Ce sera probablement la dernière rencontre avant les annonces officielles du gouvernement. Édouard Philippe a donné rendez-vous aux partenaires sociaux mercredi 11 décembre au Conseil économique, social et environnemental à midi, où il présentera l'intégralité du projet du gouvernement sur la réforme des retraites. De son côté, l'intersyndicale composée de la CGT, FO, Solidaires, la FSU et d'organisations étudiantes, a lancé ce vendredi un nouvel appel à la grève. Elle invite les manifestants à battre le pavé le mardi 10 décembre pour une nouvelle journée interprofessionnelle. L'intersyndicale doit se réunir le soir même pour décider de la suite à donner au mouvement. Les syndicats qui ont durci leur position demandent le retrait de la réforme. En attendant, les préavis de grève illimités dans les transports en commun continuent de courir et la grève se poursuit jusqu'à lundi soir. Mais l'heure de vérité sonnera mercredi. En fonction des annonces du gouvernement, l'intersyndicale pourrait opter pour une nouvelle manifestation dès le lendemain, le jeudi 12 décembre.
Et maintenant, le reportage de Laura Martel sur les manifestations d'hier à Paris.
Ce sont d'abord les routiers qui se sont mobilisés dès l'aube. Barrage filtrant, opération escargot, une quinzaine d'actions de blocage ont été menées sur des grands axes à travers tout le pays par ces transporteurs pour protester contre la hausse de leur taxe sur le gazole prévue en 2020. À Paris, les quelques 1600 personnes qui avaient répondu à l'appel annuel de la CGT à manifester contre le chômage et la précarité ont été rejoints en début d'après-midi près de la gare Montparnasse par certains gilets jaunes et militants anticapitalistes dont le cortège était parti un peu plus tôt de Bercy. Ils avaient été environ un millier à défiler, globalement dans le calme, malgré de brefs incidents. En région également, des marches mêlant dénonciation de la précarité, contestation de la réforme des retraites et gilets jaunes ont eu lieu. Selon les autorités, elles ont par exemple réuni 700 personnes à Lyon, 1200 à Caen, 1800 à Marseille et près de 3000 à Nantes. Des rassemblements parfois émaillés de dégradations et de heurts avec les forces de l'ordre, comme à Nantes où les manifestants s'en sont pris à la préfecture. À l'échelle nationale, le ministère de l'Intérieur estime que près de 25 000 personnes se sont mobilisées. À noter aussi le débrayage de certains établissements culturels. Dans la capitale, plusieurs représentations prévues ce week-end à la Comédie-Française et à l'Opéra de Paris, où existent des régimes spéciaux de retraite, ont été annulées, tandis que les musées n'ont ouvert que partiellement.
Les membres de la diaspora algérienne se rendent depuis hier dans leur consulat pour participer à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. En France, la sécurité a été renforcée devant les bâtiments consulaires où des manifestants s'étaient réunis pour dénoncer une élection qui ne changera rien, selon eux. L'Iran et les États-Unis ont procédé à un échange de prisonniers dans le plus grand secret pour permettre la libération d'un professeur d'université iranien, Massoud Soleimani, détenu aux États-Unis, et de l'étudiant sino-américain Ziyue Wang, détenu en Iran. Le président ukrainien pense qu'un sommet international qui se tiendra dans les jours qui viennent aidera à conclure un cessez-le-feu durable dans son pays. Volodymyr Zelensky rencontrera les dirigeants de la Russie, de la France et de l'Allemagne en Normandie prochainement pour mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine où plus de 14 000 personnes sont mortes dans des combats entre les rebelles séparatistes soutenus par la Russie et les forces ukrainiennes depuis 2014. Les pourparlers en Normandie seront la première rencontre face à face de Volodymyr Zelensky avec le président russe Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky pense qu'il serait avantageux de voir Vladimir Poutine face à face plutôt que de parler au téléphone avec lui.
We've talked by phone with Putin, but this was a phone conversation, and I want to see him in person. And I want to bring back from the Normandy group meeting an understanding and feeling that indeed everyone wants to gradually end this tragic war. I will be able to understand this for sure while sitting at the table with Putin.
Цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 25 degrés, Adélaïde 38 degrés, Melbourne 25, Hobart 21, Canberra 32, Sydney 26, Brisbane 32, Cairns 33, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 8 décembre. En Australie, le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, semble remettre en question le fait que le gouvernement accepte l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir des demandeurs d'asile. Un haut responsable du Parti travailliste admet que son parti a laissé tomber ses partisans. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.